des petites choses. J'ai un peu de couleur dans ma Bible. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, si vous avez un crayon, préparez-le, gardez-le non loin de vous, parce que j'espère que vous aurez l'occasion de mettre quelques couleurs en plus sur le mur des petits pas qui est déjà bien, bien achalandé, mais j'ose espérer que vous aurez l'occasion d'y ajouter encore un peu de couleur tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais surtout prendre le temps de partager avec vous la parole et de le faire, plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre un petit peu de certaines journées que nous propose notre union d'église, c'est-à-dire la Fédération Baptiste, qui nous invitait dans le mois en cours à prendre un temps dans ce qu'ils appellent, eux, la journée d'évangélisation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais de regarder aussi à l'appel du Seigneur pour nous tous. Et aujourd'hui, quand nous venons à parler d'évangélisation, on s'attache à certaines idées très fortes. Par exemple, bien que nous pensons souvent que la responsabilité de l'évangélisation est du ressort de tous les chrétiens, hein, l'observation que l'on peut avoir sur nos églises, pas seulement la nôtre, mais l'ensemble des églises que nous connaissons plus ou moins bien, montre souvent une réalité assez différente. L'évangélisation est souvent vue comme une activité parmi d'autres, à côté du groupe des dames, à côté du temps de prière, etc. Et c'est le cas pour nous, hein, soyons clairs. Que l'évangélisation est surtout réservée aux plus motivés d'entre nous, ceux qui ont la niaque. Alors, je ne sais pas comment vous préférez le dire, mais c'est ainsi très souvent que nous le voyons. Et surtout, l'évangélisation est l'affaire de spécialistes, de gens qui ont été appelés à cela, c'est-à-dire les évangélistes. Quand nous ne le sommes pas, nous pouvons quelque part nous dédouaner de cela. Bon, j'exagère un petit peu, mais admettons, soyons honnêtes, nous le regardons un peu comme cela régulièrement. Mais si nous comprenons que l'Église est un peuple missionnaire, alors la mission ne se fait pas premièrement dans les activités de l'Église, mais de façon incarnée. Lorsque les chrétiens sont d'ailleurs dispersés, là aujourd'hui nous sommes rassemblés pour, allez, 2 heures environ. Mais en dehors de ces 2 heures, dans toute une semaine, nous sommes dispersés. Bon, mis à part quelques petits temps autres de réunion, mais globalement, nous sommes dispersés. Donc c'est au travail, à l'université, dans le monde associatif, dans votre voisinage, plus encore, que vous pouvez incarner l'Évangile. Autrement dit, l'évangélisation n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Évangéliser, c'est incarner le message que nous vivons. Nous ne sommes pas que des messagers, bien plus, nous sommes une incarnation du message. Et ce qui est invisible de Dieu alors prend forme dans notre vie individuelle, mais aussi dans notre vie communautaire, pour manifester qui est Jésus au quotidien. Alors, j'aimerais quand même prendre le temps de lire au moins un premier passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, en son chapitre 5 et à partir du verset 14. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14, et nous irons jusqu'au verset 20. Donc, prenez le temps d'ouvrir votre Bible ou d'allumer ou de prendre votre application favorite pour cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Et lisons. Alors, je vais prendre dans la version au Summer, comme très souvent. Alors, écoutons. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation.
Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et je m'arrête sur cette parole. Dans l'exhortation de Paul ici aux Corinthiens, dans cette deuxième lettre qu'il leur écrit, nous avons entendu Paul dire plusieurs choses. Il commence ainsi, mais l'amour du Christ nous étreint. Je ne vais pas trop y revenir, mais nous comprenons, je l'espère, un tout petit peu au moins cette expression. Mais plus encore, il vient à nous dire qu'il nous est confié le ministère de la réconciliation. Ou encore, qu'il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Et plus loin encore, au verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ. Tout cela forme un tout. Hein. Ainsi Paul nous fait entendre que l'Église est une assemblée qui se définit par quelque chose de nouveau, qui d'ailleurs n'est partagé nulle part ailleurs dans ce monde. Qu'on peut, pour ce matin en tout cas, oser dire et évoquer sous l'angle d'une culture qui n'a rien à voir avec ailleurs. C'est pas qu'on est un club, hein, rien à voir. Mais il y a quelque chose de nouveau qui transcende tout ce que nous pouvons vivre autrefois, ou que tout ce que nous avons pu vivre autrefois. Une culture orientée et façonnée par l'Évangile, oui, et pour l'Évangile, plus encore. Je vais aujourd'hui me permettre de garder un peu cette expression de culture de l'Évangile, quelque chose qui devrait animer toute notre vie, si nous imaginons que le mot culture, quelque part, est un peu au fondement de tous nos actes, de ce qui baigne toute manière d'être. Mais alors, de vous poser maintenant une petite question, mais comment, si on peut l'évoquer ainsi, comment se définirait alors une culture de l'Évangile, notamment dans une église, dans une communauté chrétienne? Une proposition que je vous fais là. Il s'agit d'une culture dans laquelle la mission est vue comme la vocation de l'Église, et pas une activité. Je dis bien la vocation de l'Église, et aujourd'hui, du moment qu'elle est prête. Et par elle, par cette culture, l'Église s'aligne sur le dessein, le projet de Dieu de se former un peuple d'adorateurs à travers toutes les nations. Et nous sommes diverses nations ici déjà. Et dans une telle culture, celle que j'ai appelée pour aujourd'hui la culture de l'Évangile, la mission est une préoccupation majeure. À la fois pour l'Assemblée comme pour ses leaders, ses responsables. Autrement dit, chaque chrétien est invité à y contribuer. Ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes dont la lumière serait tombée sur eux en disant « va vers le monde ». Normalement, vous l'avez tous vu, cette lumière, pour vous aussi, parce que c'est Christ qui vous a appelé. Et même, j'ose dire que dans une communauté qui se comprend comme étant invitée à être en mission, ce sont toutes les activités de l'Église qui sont orientées par cette mission, qui sont dirigés dans ce sens. Par exemple, l'évangélisation et la formation de disciples ne sont pas le souci de quelques motivés, ils devraient être le souci de beaucoup, si ce n'est de tous. La préoccupation de tous les chrétiens, afin d'être équipés pour cela. Ainsi, tel que je vous invite à le voir ce matin, l'évangélisation n'est pas un domaine d'activité, mais plutôt, en tout cas, c'est comme ça que je préfère vous l'inviter à le voir aujourd'hui, une manière de vivre pour toute l'Église. Une culture, quoi, si vous préférez. La vie d'une telle communauté, axée sur sa mission, sur la mission que Dieu nous confie, celle d'apporter l'Évangile dans les relations de tous les jours et de faire des disciples. C'est cela, je crois, d'ailleurs, peut-être la vocation première de l'Église. Or, bien sûr, c'est un ensemble très complet, ça revêt beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, prenons quelques exemples caractéristiques de ce que j'ai appelé aujourd'hui la culture de l'Évangile, ou la culture d'évangélisation, si vous préférez, dans ce que doit être une Église. Prenons quelques aspects. Cette culture-là est une culture motivée par l'amour pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Je reprends les deux premiers versets que nous avons lus tout à l'heure, qui disaient... L'amour, je prends une autre traduction pour varier un peu, mais l'amour de Christ nous presse. Alors, elle ne nous écrabouille pas, hein, mais elle nous pousse, si vous préférez. Elle nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et ça, c'est souvent le grand défi pour nous. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà l'objectif. Autrement dit, lorsque la source de notre motivation, de tout ce qui fait notre vie aujourd'hui, de ce qui nous pousse à avancer, à faire des choix, à réfléchir, à savoir la manière dont nous allons nous exprimer, etc. Tout. Notre culture, si on peut le dire ainsi. Lorsque la source de notre motivation pour évangéliser est l'amour du Christ, ce que nous pensons alors de l'évangélisation va changer et devient quelque chose de libérateur. Et d'ailleurs, qui risque même de nous libérer, alors attention, hein, ça va faire peur, de nos propres égoïsmes, de nos propres manières de voir les choses. Cela se manifestera par une manière de vivre ancrée dans la bonne nouvelle, dans l'espérance plus encore, et tournée notamment vers l'extérieur aussi, pas seulement sur nous, bien qu'il faille commencer par cela, bien évidemment. Et dans ces premiers versets, Paul nous dit que notre vie n'est plus la nôtre. Attention, hein, quand vous avez décidé de suivre Jésus, votre vie n'est plus à vous. En fait, sachez qu'elle n'a jamais été à vous. Avant que nous le connaissions, nous étions esclaves de certains maîtres. L'argent, il y avait toujours le péché par derrière. Mais aujourd'hui, si vous avez donné votre vie à Christ, elle n'est plus à vous, normalement. Donc ne soyez pas étonnés, hein, que je vous le réapprenne ce matin. Notre vie n'est plus la nôtre. Nous avons été rachetés par le prix de la mort du Christ. Et donc, nous sommes appelés à ne servir que le Christ, que ce maître. Et notamment, nous entendons Paul en parler un petit peu ainsi, dans sa première épître d'ailleurs aux Corinthiens, où il l'a fait entendre que nous ne nous appartenons plus car Christ est devenu notre maître, et nous ses serviteurs, ses esclaves. Et voilà comment il le dit en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, entendez-le juste, mais vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. C'est très synonyme de ce que vous nous entendez dans la deuxième épître. Paul leur rappelle les mêmes choses même. C'est dire à quel point nous avons nous aussi besoin de réentendre parfois ce genre de vérité. Et effectivement, cette culture de l'évangile qui devrait nous animer au quotidien, et pas seulement maintenant, là, pendant les deux heures que nous partageons, c'est une culture qui est motivée par l'amour, mais prenons un autre aspect, c'est une culture qui voit les gens d'une manière plus lucide, plus claire. Et quand je dis les gens, c'est pas seulement nous, mais toute personne que nous sommes amenés à croiser, et plus encore nos proches, peu importe qui ils sont. Et je reprends le verset 16 de notre texte tout à l'heure qui disait « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. » Paul ne fait pas entendre que, tout d'un coup, nous regardons les gens comme des extraterrestres hein, au dehors. Bien qu'on soit tenté de le faire. Mais c'est pas ça. L'idée n'est pas là. Mais je continue ma lecture. « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que nous ne voyons pas les autres au travers de nos préjugés. Peut-être aussi, j'ose le mot, de nos propres racismes. Et ce n'est pas qu'une question de couleur, hein, le racisme, c'est pour plein de choses. Il y a les non-chrétiens. Ça aussi, c'est une forme de racisme, croyez-moi. Mais de nos points de vue, de tout ce qui, quelque part, nous fait regarder l'autre comme quelqu'un de bizarre. Ceux qui nous entourent sont aussi, comme nous, faits de chair et d'os, avec des vies faites de douleurs, de chagrins, de défis, très souvent insurmontables. Ils sont imparfaits, comme nous le sommes. Et ils sont toujours comme Jésus les a vus, autrefois. Et là, je regarde un texte des évangiles qui me parle beaucoup. Ce sont quelques versets, mais c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, où on entend ceci dans l'évangile. Il est dit « À la vue des foules, il s'agit de Jésus, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Voyez le regard que Jésus a sur ces foules qui n'arrêtaient pas de venir le voir. Il voyait leur détresse, il voyait le vide qu'il y avait dans leur vie. Alors peut-être qu'il avait un regard plus aguerri que nous.
Mais nous pouvons voir cela aussi. Nous sommes invités à voir comme Jésus voit les choses.
Et voir les autres au travers des yeux de Jésus, c'est reconnaître d'une part que les gens sont beaux. Croyez-moi, Jésus vous voit comme beau. Alors peut-être qu'on a un peu de mal encore avec nous-mêmes, hein, on s'imagine pas si beau que ça. Peut-être parce qu'on est encore un peu pécheur, certes. Mais Dieu et son Fils nous voient comme beaux. Ils nous aiment pour cela. Et ces gens au dehors qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous sont tout aussi beaux que vous pour lui. Car ce sont des créatures qui ont de la valeur et qui ont été créées aussi à l'image de Dieu. Chacun de nous porte la marque de Dieu. Et c'est pour cela que nous croyons que tous ont de la dignité. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que aujourd'hui, rares sont, en dehors de l'Église, les gens qui se battent sur des points éthiques parce que l'homme a de la dignité. Non pas pour X raisons, mais parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Autrement dit, tous ont de l'importance et de la valeur. En même temps, deuxième chose, nous reconnaissons que toute personne a chuté et vit séparée de Dieu. Ça aussi, c'est le regard que Jésus, Dieu, a sur chacun d'entre nous, nous comme au dehors. Nous avons tous chuté. Nous avons tous été, à un moment donné, séparés de Dieu. Et que tous, nous sommes une image de Dieu, mais tordue, corrompue à cause du péché. Et cela aussi, c'est ce regard lucide que nous devons avoir. Et dans une culture de l'Évangile, comme je l'ai proposé aujourd'hui, nous sommes donc conscients de ce que ces personnes, comme nous l'avons été, peuvent devenir de nouvelles créatures en Christ, renouvelées et transformées par la puissance de Dieu. Voilà le regard que nous sommes invités à porter autour de nous, sur nos contemporains, nos voisins, nos collègues, notre famille aussi. Bref, là où à chaque fois Dieu nous place devant d'autres. Autre point qui me permet de décrire un peu plus ce que j'appelle aujourd'hui culture de l'évangile ou de l'évangélisation, c'est une culture qui vit cela en collaboration. Dans une culture de l'évangile, de l'évangélisation, il y a une compréhension que tous sont engagés. C'est pas juste JD qui doit porter le flambeau et nous on lui met des coups de pied en disant « vas-y, vas-y ». On est très fiers que tu sois dehors et puis nous on attend. Hein. C'est pas ça. Cette culture-là, celle que nous devrions avoir, et je l'espère qu'elle est déjà un peu là, c'est que nous sommes tous engagés. Tout chrétien est appelé à partager sa foi. Parce que c'est une question de fidélité et non d'un don particulier. Alors bien sûr, après il y a des dons qui s'ajoutent à cela. Mais tous nous avons reçu cet appel à cause de cette fidélité à Dieu. Et là, je reprends Paul encore, je le cite, mais cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, où il dit « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, il n'a pas dit certains, ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » Alors c'est très vaste, hein, c'est très très vaste. Mais c'est ce que moi j'appelle ici aujourd'hui culture de l'Évangile. Participer à la construction du corps du Christ, c'est aider à faire des disciples. Autrement dit, et pour le dire peut-être autrement, le but c'est que tous nous allions et travaillons dans une même direction, dans un même but, selon la vision que Dieu désire nous communiquer. Alors peut-être que nous manquons un peu de vision. C'est peut-être ça aussi, notre premier travail pour aujourd'hui et demain. Mais il y a une invitation claire et formelle que Paul n'invite pas que les Corinthiens, on l'entend chez les Éphésiens, on l'entend presque partout en fait, si on y prend garde. Et si quelque part Paul, à chaque fois qu'il s'adresse à une église autre, redit quasiment la même chose, en d'autres mots, c'est que quelque part il y a une vocation universelle de l'église là-dedans. Autrement dit, cette vocation, cette culture qui doit être la nôtre et nous animer au quotidien et pas là, maintenant, c'est être ensemble, être une équipe qui partage le Christ dans la collaboration. C'est cela être Église d'ailleurs. Porter l'Évangile pleinement et non pas juste ses valeurs. Parce que parfois on se contente de porter les valeurs de l'Évangile. Et là, il y a un piège.
on s'affiche, quand il faut manifester ou qu'il faille juste faire la marche de Jésus, alors on y va. Mais le reste de l'année, c'est pas très important, puisqu'il fallait le dire une fois très haut, et puis après on a fait notre boulot. Non, c'est bien plus que cela. C'est une communauté où chacun contribue avec ses dons particuliers pour construire ce peuple, construire ce corps, comme Paul l'enseigne. Autrement dit, le moteur de l'évangile, d'un évangile vivant au milieu d'une communauté, ne doit pas reposer sur quelques personnes investies. Or, bien sûr, je pense, le Seigneur aussi appelle certaines personnes, qu'ils soient là un peu comme parfois des porte-étendards qui nous permettent de regarder un peu plus en avant, parce qu'on a parfois tous du mal à regarder en avant. Des personnes qui soient ou leaders ou responsables, qui sachent nous équiper ou nous enseigner. Oui, il y a besoin de cela. Mais tous, nous sommes invités à suivre, à vivre cette culture-là, à porter l'évangile pleinement et non pas juste quelques valeurs. C'est bien l'affaire de toute la communauté. Et ainsi, quand nous entendons que c'est l'affaire de toute une communauté, nous nous tenons mutuellement responsables les uns des autres. Nous renforçons notre détermination mutuelle, parce que nous nous portons les uns les autres. Autre chose, c'est que nous apprenons les uns des autres. Il n'y en a pas un qui sait tout et les autres qui se demandent comment faire. Je vois à quel point, parfois, dans un temps de partage au sein d'un groupe de maison, il n'y a pas un sachant et des écoutants. Il y a très souvent, dans le temps du partage, tout ce qui venons avec une parole. Et nous nourrissons mutuellement. C'est ce que nous avons vécu hier soir pour l'un des groupes de maison qui s'était réuni. Autre chose que cela veut dire, c'est que nous nous réjouissons ensemble du succès, mais aussi pleurons ensemble quand il y a des échecs ou des douleurs. C'est ça l'Église. Et que nous nous lions à travers des expériences partagées dans des situations même parfois intenses. Alors, petite question encore, mais est-ce possible de ramener, alors, j'allais dire l'évangélisation, je préfère dire l'évangile parce que l'évangélisation parfois est déjà trop piégée, mais est-il possible de ramener l'évangile au cœur de nos églises? Plus encore, je ne vais pas dire qu'il était absent, vous ne m'entendez pas cela, pour devenir des communautés missionnaires, et c'est dans cette optique que je veux le dire. Est-il possible, oui, de vivre plus encore l'évangile au cœur d'une communauté, la nôtre, pour devenir vraiment cette communauté missionnaire que Dieu désire voir à l'œuvre, que Dieu désire voir vivante même. Alors, je n'apporte pas de réponse, je vous laisse réfléchir à ça. Peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, j'aurai occasion de l'écrire pour vous. Mais autre aspect, autre manière de donner une caractéristique de cette culture de l'Évangile que nous devons partager, c'est une culture dans laquelle tous, oui tous, apprennent aussi. Autrement dit, l'Église, c'est aussi chacun qui écoute l'autre. Pas juste le pasteur, l'autre. Où chacun apprend de l'autre. Il est bon d'apprendre de tous. Je vais essayer de l'expliquer. Nous sommes tous en formation. Peut-être à commencer par les plus anciens. Et quand je vise les anciens, je pense à nous qui formons l'équipe pastorale. Je pense, mes chers confrères, que nous sommes lucides, que nous avons à apprendre et nous continuons. D'ailleurs, très souvent, quand nous préparons quelque chose pour venir vers vous et le partager, nous sommes en apprentissage. Nous nous laissons encore former par sa parole, par son esprit. Autrement dit, oui, nous sommes tous en formation, ensemble, pour apprendre à évangéliser, à partager l'évangile, à vivre l'évangile même avant, et aussi à faire des disciples. Quitte à commencer par être disciples, nous-mêmes d'abord. Et cela se fait de plein de petites manières. Par des petites choses. On se donne parfois des idées, on s'encourage. Hier, j'entendais dans le temps d'enseignement de la formation de disciples, juste à propos de l'Épître aux Galates, il y avait une demande de synthèse, de retour de chacun, et puis, je ne vais pas la citer, elle est là, la personne, mais elle se reconnaîtra, elle dit, oh ben, moi je me rappelle qu'un jour, il y a un pasteur qui a dit, à propos des fruits de l'esprit, il suffirait de faire la liste. Alors, je trahis peut-être, c'est pas dit exactement comme ça, mais faites la liste, et puis prenez le temps de prier pour chacun des fruits. Laissez Dieu vous dire où vous en êtes, remettez tout cela devant Dieu, mais à chaque fois de s'arrêter sur l'un d'eux, pas tout prendre, je prends le verset, merci Seigneur, et zoup, tac, terminé. Prendre le temps de s'arrêter, de méditer le sens de chacun de ces fruits que Dieu veut nous donner, là où il veut travailler en nous. C'est cela, Et cela, nous avons tous besoin d'apprendre, tous. Et ce qu'il y a de beau dans ce que j'ai appelé la culture d'évangile, c'est que souvent, c'est un constat que l'on remarque quand même assez facilement, les nouveaux convertis, les jeunes dans la foi, hein, ça veut pas dire qu'ils sont jeunes de corps et d'esprit, mais les jeunes dans la foi, les nouveaux convertis, ont le zèle pour évangéliser. Pas qu'eux, hein, mais plus souvent. Et qui plus est, ils ont, alors ça c'est une chance, et c'est aussi une perte pour les autres, beaucoup de contacts encore avec le monde non chrétien, avec le monde tout simplement. Ils ont des amis, ils ont des collègues, ils se sont pas encore trop fâchés avec eux, bon j'exagère, hein. J'espère que vous en êtes pas là vous aussi, pour les plus anciens, mais souvent hélas, et c'est le pendant, c'est que les chrétiens de longue date sont un peu coupés du monde, se sont un petit peu fabriqués une sphère, alors on a nos amis chrétiens, puis il y a le reste. Mais c'est une chance de se dire, il y a aussi des jeunes dans la foi, et entendez bien ce que j'ai dit avant, hein, qui eux savent aller vers les autres, savent leur parler, parce que ils savent comment ça se dit. Et on a à apprendre aussi de ces jeunes convertis. On doit aussi prendre le temps de les observer, d'être à côté d'eux, de voir aussi comment ils s'expriment, de les accompagner. Autant peut-être leur témoignage sera un petit peu bancal sur deux, trois petites choses théologiques, mais alors, c'est pas grave. Mais je crois qu'un ancien a tout besoin aussi d'accompagner, d'être à côté de lui, et il va y avoir une complémentarité. Et je regarde maintenant, je ne vais pas regarder, embellir et porter en nu les jeunes dans la foi, regardons aussi aux plus anciens. Et là aussi, il n'y a pas d'âge. Hein. Mais pour ces chrétiens matures que nous pouvons être, ils ont aussi un privilège, une chance, c'est qu'ils ont une connaissance, ils ont une sagesse, une richesse de l'expérience chrétienne, de cette vie de disciple, dont d'ailleurs les nouveaux convertis ont besoin d'être à l'écoute. C'est ça le peuple de Dieu, c'est ça la culture de l'évangile, c'est ce besoin d'être les uns avec les autres. C'est bien pour ça que d'ailleurs le plan de Dieu s'inscrit dans l'Église, dans ce peuple, et pas individuellement, surtout pas. Et dans ces différences, dans nos maturités, dans toutes nos expériences, tous nous pouvons apprendre les uns des autres. Alors, c'est une invitation aussi à une forme d'humilité, hein. Mais ensemble, nous pouvons travailler pour voir avancer le royaume de Dieu. Et ça aussi, c'est un défi, hein. D'acquiescer, de se dire, je peux apprendre des autres. C'est pas toujours facile. Autre aspect encore, et je vais bientôt m'arrêter là, mais cette culture de l'évangile qui doit nous rassembler, qui doit nous faire vivre ensemble et avancer à la suite du Seigneur. C'est une culture, et ça aussi on a peut-être besoin d'agrandir encore, une culture où l'on encourage et on reconnaît ceux qui partagent leur foi, ceux qui vivent cela, ceux qui sont disciples tout simplement. Et là je vais encore prendre Paul dans une autre épître cette fois-ci. J'ai beaucoup été prendre chez Paul, mais parce qu'il y a une cohérence aussi dans tout son message pour toutes les églises. Et il dit en Philippiens 2, à partir du verset 19, ceci, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Bon, là, on perçoit un peu la relation particulière que Paul a avec Timothée, mais plus que ça, Paul, ici, honore Timothée. Dans ce passage, pour sa fidélité, pour sa persévérance, pour sa sollicitude aussi pour les autres. Et ici, il y a surtout quelque chose que Paul fait, qu'on oublie peut-être un petit peu entre nous. C'est la pratique de reconnaître les efforts d'évangélisation des uns et des autres, qui doit encourager tous aussi notre témoignage. Je vous donne un exemple autre que la situation que Paul a et témoigne ici. Mais par exemple, il nous arrive, nous, et certainement dans d'autres églises, de partager régulièrement un témoignage d'une rencontre suite à un temps d'évangélisation. Et on en a eu déjà le bénéfice plusieurs fois, et je suis très reconnaissant de ces temps-là. Je les apprécie, je les savoure même, d'entendre des rencontres avec des prénoms de personnes que je n'ai pas vues moi. Mais ne serait-ce qu'entendre un prénom donne chair déjà à quelqu'un qui a été rencontré par nos frères et sœurs. Oui, ce genre de témoignages, qui sont souvent récents, liés à quelques jours, à quelques semaines près, permet aussi à nous tous qui n'étions pas là, d'entendre ce que Dieu est en train de faire. Et pour toute l'Église, c'est un encouragement aussi à participer dans la joie. à vouloir se joindre aussi à cela. Et ainsi, je l'espère même, de se sentir encouragé à témoigner à notre tour. Il y a besoin de parfois nous mettre à l'écoute, de témoignages, justement pour entendre que Dieu agit. Et j'espère de se sentir interpellé en se disant, mais tiens, au fait, j'aimerais bien que la prochaine fois, tu libères un peu de ton temps pour être avec ceux qui y étaient, ou peut-être pour les relayer, parce que ils s'épuisent, ils n'ont pas toujours le temps, tout le temps, à tout moment. Et donc, c'est de notre responsabilité aussi. Et en conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, déjà que je l'ai été peut-être un peu trop, j'aimerais revenir sur l'évangile de Matthieu, que tout à l'heure j'ai cité dans son chapitre 9, verset 36. Je vais relire les deux versets là, verset 36 et 37. Alors, c'est ici. Je reprends le verset de tout à l'heure et la suite. En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Et la moisson ici est positive, hein, c'est pas le temps du jugement, c'est toutes ces personnes qui n'ont qu'une soif, c'est de trouver Dieu. Mais il faut qu'il y ait des ouvriers aussi, pour que cette moisson se fasse. Et avant ici que Jésus n'appelle ses disciples à participer à la moisson, en voyant la foule, nous apprenons bien sûr cette émotion forte que Jésus ressent. Lorsque lui voit la foule, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle désire, et notamment de recevoir la bonne nouvelle. Et notez bien une chose, dans les évangiles, et notamment dans celui de Matthieu, les émotions du Christ sont plutôt rares, rarement évoquées. Et quand elles sont évoquées, c'est qu'il y a là quelque chose d'important, de crucial même. Et quand une émotion telle que celle qui nous est dite là nous est communiquée, nous est fait connaître, c'est qu'il y a un sérieux aussi dans cette situation, pour que Jésus fasse entendre ce qu'il vit là. Et une émotion qui doit nous interpeller, nous doit nous inviter nous aussi à changer de regard, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire à vivre tel que je l'ai proposé, selon la culture de l'Évangile, d'avoir soif, de s'en nourrir, de vouloir aussi être préparé, d'être formé, de nous laisser toucher par l'Évangile pour oser le partager, là où il nous veut. Hein. Et aussi parce que nous sommes tous, en tant que disciples du Christ, interpellés à participer à cette moisson qui attend des ouvriers. J'aimerais vous demander, je vais revenir à ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous demander maintenant de chacun nous puissions nous incliner et de nous laisser sonder par l'appel de notre Seigneur. Et pendant cette méditation que nous avons partagée, pardon, si vous avez reçu comme un appel, une invitation à oser entrer plus encore dans cette culture de l'Évangile, alors, donner des petits exemples, à savoir d'avoir soif de se former plus encore pour son royaume, de vouloir témoigner autour de soi, de vouloir participer, pourquoi pas, à des actions d'évangélisation, bien que ça ne se résume pas qu'à cela, comme je l'ai dit, etc., etc. Je vous invite, alors je vais demander peut-être à deux, trois de venir, pour que chacun puisse, s'il le souhaite, prendre cela, pendant le temps où on s'incline. Si vous avez un crayon, le petit pas que Dieu vous invite à vivre, prochainement, notez-le. Il peut être de toutes les manières, de toutes les formes. Notez cela d'une manière très courte avec votre crayon, et tout à l'heure, à la fin du culte, vous pourrez aller le poser là-bas. Alors, je demande juste à deux, trois peut-être de venir juste chercher cela, et faites-les passer, prenez-en un si vous avez à cœur d'ajouter quelque chose, parce que vous sentez Dieu qui vous invite à cela. Il y a une couleur pas rangée, je crois. Si quelqu'un aussi de là-haut peut venir, s'il vous plaît. Alors, il me reste la rangée de gauche, sinon je viens à vous, hein. Passer et qu'on s'accorde quelques minutes de silence, qu'on se mette à l'écoute de Dieu surtout. Et voilà, si vous avez à cœur de rajouter, soyez libre, hein. C'est pas une obligation, c'est pas un devoir, c'est juste de pouvoir porter sur le papier peut-être ce que Dieu m'a mis à cœur pour demain, pour bientôt, ce à quoi je veux m'engager un peu plus avec lui, et j'ai bien dit un petit pas. Voilà, faisons silence, prenons le temps de méditer, et si vous recevez quelque chose, posez-le sur le papier. Et tout à l'heure, à la fin du culte, vous pourrez aller le coller là-bas au fond. Voilà. Prenons le temps alors de nous mettre à son écoute. Seigneur, je veux me tourner vers toi avec mes frères et sœurs pour te prier et te demander encore que tu puisses nous renouveler, que tu puisses nous rassasier aussi de ta parole et de ta vérité. Seigneur, que ta sagesse nous anime et ravive le feu qui parfois peut-être semble s'éteindre en nous, afin que nous entendions ton appel aujourd'hui encore. Ton appel à nous attacher à toi plus fortement, à nous laisser conduire par ta parole, à vivre en tant que témoin de ton évangile sous toutes ses formes et au quotidien. Seigneur, pardonne-nous si peut-être hier nous avons oublié cela à un moment donné. Seigneur, donne-nous à la fois l'énergie, la force et plus encore la sagesse d'être tes disciples aujourd'hui et demain. Donne-nous surtout de savoir le faire et le vivre ensemble, en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que ton peuple rassemblé, afin que nous soyons plus encore ces témoins, cette lumière autour de nous. Seigneur, puisses-tu encore nous éclairer, nous montrer ce que tu as le désir de nous inviter à vivre, non pas seulement aujourd'hui, mais demain, et même pour ces années à venir. Éclaire-nous, nous tous, en tant que communauté. Puisses-tu aussi éclairer chacun de ceux que tu as placés en responsabilité aussi, qu'afin que, ensemble, nous pouvons regarder à toi et discerner là où sa volonté va s'exprimer encore dans ces temps à venir, afin que nous soyons vraiment tes fidèles serviteurs, ceux en qui tu trouveras plaisir au jour où tu nous rappelleras à toi ou au jour où tu seras là devant nous. Seigneur, oui, équipe-nous, donne-nous ta force, afin que nous ne faiblissions pas. Donne-nous ce courage aussi et ce zèle de la foi qui nous vient de toi. Oui, Seigneur, que par ton esprit, tu nous rendes plus semblables à toi, plus semblables à ton Fils, qui a ouvert le chemin et nous a montré, par son témoignage, ce qu'est la vie de disciple à laquelle tu nous convies. Amen. D'ici la fin du culte, si vous avez encore envie d'écrire, vraiment, je vous ai dit, ça n'est pas obligatoire, vous n'avez pas à le signer. Il n'y a pas besoin d'être identifié. C'est juste vous, dans votre, ce que vous avez reçu, dans votre manière de vouloir dire, quelque part, le petit engagement que vous avez reçu, vous le mettez là-bas. Mais c'est pour vous, entre vous et Dieu. Si plus tard, hein, vous avez reçu quelque chose, venez m'en parler, et puis il y aura peut-être occasion de témoignage, mais c'est autre chose. Voilà, j'ai presque fini, mais je vais inviter, alors, le comité évangélisation à me rejoindre, puisque nous avions prévu aussi d'avoir un temps de prière et de reconnaissance pour eux trois. Alors j'espère qu'ils sont là tous les trois. Je crois savoir qu'on en avait parlé, donc normalement ils m'avaient dit être là. Alors venez tous les trois, et je vais demander aussi à mon équipe pastorale, donc à mes trois chers anciens, de venir, parce que je vais les inviter à prier pour vous. Et puis vous autres, vous allez tous vous lever, parce que commençons par cela aujourd'hui. L'évangélisation ne repose pas que sur nos trois frères et sœurs qui vont venir devant. Ça n'est pas leur apanage. Eux sont là pour nous aider, pour... Venez, venez, venez devant. Ne vous mettez pas de côté. Je sais que vous êtes plutôt discret, mais voilà. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous remettre dans les mains du Seigneur. Alors, j'en arrive. Juste de rappeler ceci. Tous trois, quelque part, portent des initiatives, nous invitent et reviennent vers nous par des annonces, par des exhortations, pour nous inviter à nous saisir de cela. Que j'ai essayé de dire. J'espère que je n'ai pas trahi ce que nous vivons ensemble. Et voilà, parce que nous les avons aussi mis en responsabilité, nous avons déjà le premier devoir, c'est de les porter dans les mains du Seigneur. Ce matin, c'est ce que nous allons faire. Mais nous avons aussi le devoir de nous mettre à leur écoute, de nous laisser inviter par eux quand ils reviendront vers nous. Voilà. Mais commençons, et je vais demander à mes trois frères, peut-être entourez-les là, mes trois chers compatriotes, venez, et que chacun puisse les remettre dans les mains du Seigneur, dans la responsabilité qu'il leur a confiée pour notre communauté. Voilà, je vous laisse prier.
Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Et tu nous as libéré, Seigneur Dieu, de l'esclavage du péché. Tu fais de nous ton peuple. fais de nous la lumière du monde. Et tu nous demandes aussi d'aller vers les autres. Pour les annoncer la bonne nouvelle du salut. Ce matin, nous voulons te confier cette écriture, Seigneur. Tu as à cœur d'aller vers les autres, d'aller évangéliser. Nous voulons te demander, Seigneur, de les bénir, de les accompagner, d'attiser toujours en eux la flamme de l'évangile, Seigneur, afin qu'ils portent toujours en eux cette flamme et que les autres puissent voir en eux aussi la lumière de ta parole. Nous voulons te demander une fois encore de les bénir, de les assister, de les encourager, de les équiper, et que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, soit toujours avec eux, afin que partout où ils passent, ils puissent évangéliser, Seigneur Dieu, en ton nom. C'est la prière que nous t'adressons, notre Fils Jésus. À nous sur la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons à ce que tu puisses encourager cette équipe. Malgré les affronts, malgré les insultes, malgré parfois les découragements. Oui, Seigneur, ils sont dehors, sous la pluie, sous la neige, sous le vent, Seigneur. Mais nous savons que ton sang les couvre, mon Père. Et que ce sang, cet esprit qui est en eux, c'est ça qui va les pousser, Seigneur. Avec nos prières de l'Assemblée, pour qu'ils puissent garder très fort cette mission, si noble qu'ils ont de propager ta bonne nouvelle. Oui, elle est bonne, cette nouvelle qui donne la vie. Et c'est pour cela qu'ils ont à cœur de partager cette nouvelle. Oui, comme l'Évangile dit, la moisson est très grande, mais il y a très peu d'ouvriers, Seigneur. Oui, nous voulons que tu puisses susciter pour une grande assemblée. Il n'y a que très peu. Oui, que ton esprit réveille ceux qui veulent se joindre à ces groupes pour pouvoir partager ta bonne nouvelle, la nouvelle du salut. Oui, Seigneur, donne les bénir. Bénis leur famille. Bénis leur santé, Seigneur, qu'ils soient toujours en forme. Oui, que sur le terrain, donne les mots qu'il faut, les petites phrases, des consolations, des petites réponses à des questions que les gens se posent. Oui, donne-leur l'amour, l'amour du prochain. Bénis ensemble en Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, avant toute chose, nous voulons te bénir, te remercier que tu as suscité dans cette église, dans notre église, dans ton église, des personnes qui ont à cœur de témoigner, de parler de toi, d'aller au-devant de nos frères et sœurs dans cette église pour leur apporter la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons remettre devant toi. Nous voulons te prier afin que sois toujours encouragé par ta présence à tes côtés. Qu'elles le sentent, Seigneur, quand ils sont dehors pour parler. Nous te prions, Seigneur, qu'elles se rappellent que ce n'est pas par leurs paroles, par leur témoignage uniquement ou par la force de leurs paroles que les gens vont se convertir, mais par l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions afin que, comme mon frère vient de le dire, que cette flamme continue à brûler en eux, continue à grandir, et qu'elle illumine, Seigneur, toute notre ville, par ta puissance uniquement. Amen. Amen.
Voilà, je vais vous laisser tous reprendre place, mais nous avons commencé de les soutenir par la prière, nous l'avions déjà fait un petit peu dans nos cœurs avant. Et je vous invite, ceux qui ont envie de les soutenir autrement, en venant se joindre à eux prochainement, allez les voir, parce que je crois qu'il n'y a pas d'annonce particulière aujourd'hui, mais Ils sont là, vous pouvez aller les voir tout à l'heure après le culte. Donc n'hésitez pas. Et je vais laisser ma place à Germina.